9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre santé, bonjour et bienvenue. On parle de la bronchiolite aujourd'hui avec Ibtissem Belbalani qui est là avec nous. Bonjour Ibtissem. Attendez, on va vous ouvrir votre micro, comme ça on va entendre votre belle voix. Voilà. Redites-nous bonjour.
Bonjour à tous.
Voilà, ma sœur kinésithérapeute libérale. Vous m'avez appris un mot essentiel, Ibtissem.
Dites-moi.
Que j'adore prononcer. Et je l'utilise en ce moment tout le temps.
Parfait.
L'arnouna.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire, l'arnouna ?
La morve.
La morve. Bah, on en parle parce que ça a un lien avec notre sujet de ce matin. Mais je vous remercie de m'alimenter en mots que j'utilise en plus.
Avec
parce
plaisir.
Que si on a un mot qu'on n'utilise pas, on est mort. Le docteur Sidney Seban est avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes pédiatre. Alors, les dernières recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, la HAS, dataient de 2000. Elles ont été modifiées en novembre 2019. Qu'est-ce qu'elles nous disent par rapport à la bronchiolite, Ibtissem ?
Alors, elles nous disent qu'en fait, l'étude a été faite sur des enfants, des nourrissons qui ont été pris en pédiatrie, en urgence hospitalière, il me semble, à l'hôpital de Robert Debré. C'est bien ça, sur plusieurs enfants, et donc sur des primo-bronchiolites, c'est-à-dire des enfants qui présentaient pour la première fois une bronchiolite. Et sur ces cas-là, sur avis d'experts, accord d'experts, a été déterminé le fait qu'il n'y avait pas grande utilité, pour résumer, à de la kinésithérapie respiratoire.
Mmh. Oui, en fait, ce qui est mentionné, c'est que dans des études qui ont observé en tout cas des bébés qui étaient hospitalisés, le fait de leur proposer de la kinésithérapie respiratoire ne réduisait pas ni la durée d'hospitalisation, ni le délai de guérison. Mais si vous rappelez bien dans l'émission précédente, nous faisions justement référence au fait que pour pouvoir réduire la durée d'évolution ou la durée de guérison d'une maladie virale, il aurait fallu donner un antiviral et non pas proposer des médicaments ou des techniques à visée symptomatique, c'est-à-dire qui n'agissent que sur les conséquences de l'infection, en l'occurrence là sur l'encombrement bronchique.
Techniquement, pour les parents qui nous écoutent, qu'est-ce que ça change aujourd'hui ?
La kinésithérapie respiratoire ?
Non, le fait le changement des recommandations.
Alors,
de la Haute Autorité.
Ce qu'on a pu, en tant que kinésithérapeutes libéraux en ville, constater, c'est qu'il y a bien moins d'appels au niveau du réseau bronchiolite qui prend en charge en urgence et les week-ends en garde les bébés en kinésithérapie respiratoire. Il y a bien moins d'appels, de demandes, bien moins de prescriptions aussi. Il y a une inquiétude importante de la part des parents qui, même s'il y a une prescription, nous demandent est-ce que mon enfant risque quelque chose, c'est dangereux, etc. Alors qu'il n'y a pas de preuves actuelles montrant le danger potentiel d'une séance de kiné-thérapie respiratoire sur un nourrisson.
D'accord. Donc, les parents s'interrogent sur le fait que ce soit
dangereux
parce que c'est pas déconseillé par la Haute Autorité, faut être clair.
Non.
Non, c'est pas déconseillé. Je crois que là aussi, il y a besoin de faire un peu la part des choses, parce que la présentation médiatique qui a été faite sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé est biaisée. Ouais. Elle est biaisée pourquoi ? Parce que, en fait, la Haute Autorité de Santé, dans ses travaux, a insisté sur le fait qu'il y avait des techniques de kinésithérapie respiratoire qui étaient contre-indiqué. Quelles sont ces techniques ? Ce sont les techniques de drainage de posture, ce sont les techniques
de clapping,
ce sont les techniques de vibration.
Clapping,
En fait, ce sont des techniques anglo-saxonnes. Ce ne sont pas des techniques que nous pratiquons en tant que kinésithérapeutes en France. Elles ont été délaissées depuis plus de 20 ans en France. Effectivement, elles peuvent avoir des risques parce qu'elles peuvent créer, par exemple, un décollement de plèvres ou d'autres risques. Une possibilité d'abîmer une côte, d'autres problématiques. Mais c'est reconnu et c'est délaissé depuis plus de 20 ans par tous les masseurs kinésithérapeutes spécialisés en pédiatrie, en kinésithérapie respiratoire.
Alors c'est bien dommage parce que finalement, bien entendu, la Haute Autorité de Santé a eu raison de dire que ces techniques étaient contre-indiquées, mais ça fait belle lurette qu'en France,
elles ne sont plus pratiquées. Alors qu'est-ce qu'on applique en France ? Quelles sont les techniques, on va dire ? Alors, je ne sais pas si elles sont propres à la France, que vous utilisez.
Alors, en tout cas, pour les masseurs kinésithérapeutes français, ce qui est utilisé, c'est l'augmentation du flux expiratoire,
l'AFE,
voilà, tout à fait, qui consiste à aider le nourrisson à expectorer, à souffler, pour aller chercher jusqu'au bout de ses bronchioles et dans les alvéoles les glaires qui se sont accumulés et les faire remonter dans l'arborescence des poumons jusqu'à la gorge et jusqu'à la toux et au crachat. Voilà. Et puis il y a une autre technique qu'on appelle le drainage rhinopharyngé. DNR qui consiste en fait au mouchage qui va aller chercher vers l'arrière du nez toutes les sécrétions qu'il y a dans les sinus.
Parents, bien moucher un enfant, ça s'apprend.
Exactement, ça s'apprend.
Et quel est le rôle des kinés justement dans cet apprentissage ?
Alors, la plupart du temps, quand on pose la question aux parents, savez-vous moucher votre enfant ? Ils disent oui. Oui ou oui. Et en fait, c'est souvent quand on leur demande de nous montrer, parce qu'à la première consultation, souvent, on demande aux parents de nous montrer, on s'aperçoit que c'est mal fait, soit par rapport à la pipette de sérum physiologique, ils enfoncent peut-être un peu trop, ou dans le mauvais angle à l'intérieur des narines du nourrisson, ils savent pas trop comment s'y prendre parce que l'enfant se débat, il n'apprécie pas, et puis du coup, ils osent pas trop le contenir pour pouvoir bien faire ça. Ils savent pas à quel moment ils doivent utiliser ou non le mouche-bébé. Ils ne savent pas combien de fois ils doivent le faire, à quel moment, est-ce qu'il faut le faire bien avant le repas, au moment du repas. Non, ils ne savent pas trop. Donc du coup, et puis en plus, ils n'arrivent pas à faire sortir les sécrétions.
Alors voilà, pour tout le monde, quelles sont les recommandations pour bien moucher bébé ?
Alors déjà, c'est de le faire bien avant le repas pour que le bébé soit désencombré avant de manger, qu'il puisse manger tout en puissant respirer, vous confirmez. Ensuite, c'est de le faire plusieurs fois par jour si c'est nécessaire. Vérifier que les sécrétions, elles sont vraiment assez profondes en gorge ou en arrière du nez. Si c'est juste apparent, on vient nettoyer avec un petit coton humide et on enlève déjà tout ce qui est sec au niveau du nez. Mmh. Ensuite, c'est mettre son bébé en position allongée, un petit peu inclinée à peu près à 30 degrés sur une surface qui est assez plate, rigide pour pas l'écraser et puis vraiment avoir un effet aussi efficace. Et puis c'est utiliser du sérum physiologique ou un produit avec l'eau marine, l'eau de mer, bien oser mettre de l'eau à l'intérieur du nez, parce que des fois ils en mettent juste quelques gouttes mais c'est pas suffisant pour aller chercher bien humidifier et lubrifier ce qui peut être sec. Et puis ensuite, penser à bien maintenir son enfant, ne pas avoir peur de lui faire mal. Il y a des techniques, on les montre très précisément, en retenant la tête, en tournant la tête du bébé sur le côté alors que le bébé est allongé sur le dos. Mmh. Et bien s'installer par rapport à son bébé pour avoir un bon aplomb dessus. Et puis insérer le liquide dans le nez. Et ensuite laisser l'eau qui est rentrée par une narine ressortir de l'autre narine. Si ça ne sort pas, bien s'assurer que ça n'est pas resté encombré en gorge. On va entendre l'enfant râler, siffler, etc. Ouais. Être gêné. Donc ne pas laisser cette accumulation à l'intérieur de la gorge, sans quoi finalement on n'a pas l'effet escompté.
Bien. Quelles sont les autres techniques que vous utilisez, vous, par exemple ?
Alors, ce que j'expliquais, c'était donc l'AFE, l'augmentation du flux expiratoire, où là, on va déjà, avant de faire quelconque technique, même si on a une ordonnance prescrite par le médecin, faire nous-mêmes un bilan diagnostic kiné. Voilà, parce que c'est aujourd'hui une recommandation importante.
D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, les kinés sont toujours habilités à diagnostiquer en première intention la bronchiolite ?
Ils le sont encore plus que jamais, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une responsabilité. De plus en plus, les cabinets médicaux sont débordés. Et puis, il y a aussi une relation de confiance entre les différents praticiens de santé. Et le médecin peut avoir diagnostiqué pour une... au premier abord, cette pathologie-là. Et puis, par exemple, que le parent vienne nous voir une semaine après. Une semaine après, jour après jour, ça peut tout à fait changer du tout au tout. On est d'accord.
Oui, voilà. on l'a justement rappelé dans l'intérêt de bébé et dans la surveillance d'une maladie dont on ne peut pas prévoir à l'avance l'évolution. C'est important de faire...
Au jour le jour.
Travailler, en tout cas, les professionnels de santé en réseau. Bien sûr, tu l'as justement rappelé... la confiance, c'est quand même le ciment de la relation. C'est le ciment de la relation déjà entre professionnels. C'est aussi la confiance, le ciment de la relation avec les familles. Et donc, c'est important que, là aussi, les professionnels de santé puissent partager de façon homogène, en tout cas, les mêmes discours, voilà. Les mêmes informations. Qu'est-ce que l'on peut attendre de la kinésithérapie respiratoire? On l'a dit à
plusieurs reprises. Ceci dit, le débat ne date pas de cette année.
Mais non.
Ah non.
Hein, c'est un débat qui existe depuis, oui, depuis longtemps.
Et oui. Puis, il ne faut pas simplement s'attacher à lire le gros titre qui a été retiré des 170 pages, d'accord, du travail des, de recommandations qu'a fait la Haute Autorité de Santé. En tout cas, je conseille à nos auditeurs ou à nos auditrices, s'ils veulent en savoir un tout petit peu plus sur l'effet de la kinésithérapie respiratoire, de se rendre à la page 74, voilà, c'est très précis.
Hein, de il y en a 170 ou...
Non, la 74, ouais. Où la Haute Autorité de Santé dit textuellement « L'analyse détaillée de la littérature suggère que certains nourrissons pourraient bénéficier d'une amélioration sous kinésithérapie. » Et ceci avec un grade C de recommandation, donc un grade relativement correct de recommandation. Il y a en effet une tendance à l'amélioration des scores cliniques sous kinésithérapie respiratoire, et ces données ont été renforcées par une étude observationnelle qui a été réalisée en kinésithérapie ambulatoire. Donc, elle insiste sur le fait que si l'on n'a pas retrouvé d'effet chez des bébés hospitalisés, et ce qui est assez logique, ceux qui sont hospitalisés, ce sont les tout petits, les moins de 2 mois la plupart du temps. Donc, ceux chez qui, effectivement, la kinésithérapie respiratoire pourrait constituer un effort respiratoire encore plus important chez un bébé qui n'a pas la capacité à bien respirer.
Et encore, Et encore, quand il est dans un état aggravé, effectivement.
Oui. Lorsqu'on a affaire à des bébés qui sont en secteur de ville, ceux qui n'ont pas été à l'hôpital... Et, comme on le disait la fois dernière, plus de 90% des effectifs, voire 95% des bébés, resteront chez eux. Pour cela, la tolérance respiratoire est encore suffisamment importante pour leur proposer, pour certains, comme le suggère la Haute Autorité de Santé, des techniques qui permettent effectivement d'améliorer les scores cliniques et notamment d'améliorer les symptômes. D'accord ? Ces données, peut-être qu'elles sont encore insuffisantes pour cibler les bébés qui pourraient bénéficier justement de la kinésithérapie respiratoire, mais là aussi, le couple médecin-kinésithérapeute, s'il fonctionne bien, eh bien le kinésithérapeute peut renvoyer des informations au médecin pour lui dire « J'ai effectivement vérifié que votre bébé tolérait bien, en tout cas, la séance, si on en a fait une, et si on n'a pas fait de séance, est-ce qu'il tolérait bien sa maladie? Est-ce que les conséquences de ses symptômes ne sont pas délétères chez lui ?» Et puis, ça va permettre aussi d'éduquer les parents. Comment surveiller mon enfant? Comment lui proposer une désobstruction rhinopharyngée? On a, là aussi, fait le distinguo entre ce qui concerne l'obstruction du nez chez bébé, qui est importante aussi, et l'obstruction des bronches. Et ce sont deux appareils distincts qui peuvent avoir aussi des répercussions sur la respiration de bébé. Et puis, donc, les kinés, ça réévalue l'évolution à court terme, et puis ça réoriente les bébés de temps en temps si ils s'aperçoivent que l'évolution n'est pas satisfaisante.
Bien, on parle de la bronchiolite ce matin au regard des dernières recommandations visiblement mal comprises de la Haute Autorité de la Santé. C'est AVS à votre santé jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Qu'on vous propose ce matin, c'est une vision interdisciplinaire de la bronchiolite avec Ibtissem Belmadani qui est avec nous, masseur kinésithérapeute libérale, et le docteur Sidney Seban qui est pédiatre. Et nous nous penchons sur les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société de raccourcis, de tweets, et où les gens n'ont pas forcément de lire l'intégralité des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Qu'est-ce qu'elle a dit et qu'est-ce qu'elle n'a pas dit, Ibtissem?
Alors, elle n'a pas dit, par exemple, que bien nombreux sont les nourrissons qui évitent justement d'aller aux urgences. Parce qu'il y a un bon suivi pluridisciplinaire de nourrisson, parce qu'il y a une bonne surveillance, parce qu'il y a une bonne éducation des parents à comment prévenir, comment ne pas suraggraver l'état de santé du bébé dans le cas de bronchiolite. Et parce qu'il y a la prise en charge aussi kinésithérapie respiratoire.
On peut dire quand même que peut-être que dans les recommandations, on s'est quand même pris les pieds un peu dans le tapis.
Oui.
On s'est pris les pieds dans le tapis, pourquoi ? Ben parce que on fait référence, et assez justement, au travail conséquent que font les réseaux bronchiolites sur le terrain, c'est-à-dire la capacité, effectivement, notamment sur un certain nombre de grandes agglomérations, à monter des systèmes de permanence de soins, ou en tout cas de soins non programmés, pour la prise en charge de ces petits patients, en alliant médecins, kinésithérapeutes, voilà, dans la plupart des régions françaises. Et d'autre part, le raccourci qui en a été fait par, en tout cas par les grands médias, en disant « mais la kinésithérapie respiratoire ne sert à rien
ouais. ».
Alors, la Haute Autorité de Santé a laissé dire finalement que
elle dit que ça n'a pas prouvé son efficacité.
Tout à fait. Pas suffisamment.
Oui, mais vous savez que ça me rappelle. Ça me rappelle l'homéopathie.
Ah oui.
Ça me rappelle le déremboursement de l'homéopathie qui n'avait pas fait preuve de son efficacité. Est-ce qu'on est en train de parler de la même chose ou que ça n'a rien à voir ?
Alors, elle dit quand même que ce serait intéressant de faire des études complémentaires. Mais en donnant une recommandation telle que c'est donné par accord d'experts au niveau du grade de reconnaissance, c'est comme statuer finalement aux yeux du grand public que effectivement ça n'est pas nécessaire,
c'est désavoué,
pas utile et même ça n'est pas recommandé. Mmh. Ça a été, c'est ce que disent les journalistes et les médias actuellement, alors que c'est pas ce qui a été dit clairement.
En tant que pédiatre, ça me rappelle, si vous me permettez de faire cette comparaison, c'est de faire des injonctions contradictoires aux enfants. En gros, c'est bien les réseaux bronchiolites, mais ne faites pas de kinésithérapie respiratoire parce qu'on n'a pas suffisamment de données pour prouver son utilité ou son efficacité. Mmh. Pourtant, les données, elles sont là. D'ailleurs, page 74, la Haute Autorité de Santé cite ces données. Peut-être qu'elles ne sont pas suffisantes et je veux bien l'entendre et je souhaite d'ailleurs qu'un peu partout en France, mais aussi en Belgique, en Suisse ou en Espagne, où on pratique aussi les mêmes techniques qu'en France, on puisse en tout cas être nombreux à pouvoir amener des données supplémentaires sur l'utilité de telle technique et pas simplement que sur l'efficacité, puisque l'efficacité, on ne pourra jamais la démontrer puisqu'on n'agit que sur le symptôme.
Mais est-ce que l'année qui est en train de se dérouler, c'est une année d'observation-test où finalement tout le monde regarde en disant bah, « tiens, on a eu plus d'enfants aux urgences, tiens, ça s'est plus mal passé que les autres années ou pas ?»
Il y a déjà beaucoup de choses qui se disent. C'est-à-dire que effectivement, les cabinets de kinésithérapie, comme je disais, ont de moins en moins d'appels. Pourtant, on voit tout autant dans les crèches de bébés et bien plus de bébés encombrés. La contagion, l'épidémie continue et quand même de grande ampleur. Et les hôpitaux, les urgences, pour connaître des kinés qui sont en urgence pédiatrique, disent qu'ils sont encore plus bondés que ce n'était avant de nourrissons qui viennent se présenter pour un épisode de bronchiolite. Après, c'est en cours d'analyse et on verra bien ce que ça aura donné une fois l'épidémie passée. Aujourd'hui, on ne peut pas tirer de conclusions hâtives.
Voilà, mais cette année est quand même une année d'observation pour tout le monde.
Oui, tout à fait. Et puis, je dirais, une hirondelle ne fait pas le printemps, c'est-à-dire qu'il faut regarder les données sur non pas une seule saison, mais peut-être sur deux ou trois saisons. On sait très bien qu'en fonction des années, il peut y avoir ce qu'on appelle des pics interépidémiques, c'est-à-dire où le virus respiratoire syncytial va plus ou moins circuler sur le territoire. Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire et qui me paraît tout à fait juste, c'est sur la nature à horreur du vide. Lorsqu'on ne fait plus de kinésithérapie respiratoire, pas simplement qu'à titre de désencombrement, moi je rappelle souvent que, ok, ne prescrivons pas de kinésithérapie respiratoire. Parce que nous n'avons pas suffisamment de données. Mais au moins, prescrivons un kinésithérapeute. Le kinésithérapeute, lui, il est capable d'évaluer la situation, d'éduquer les parents, de surveiller, de réorienter, de renvoyer prévenir. Des informations pertinentes vers le prescripteur médecin. Donc ça, c'est un point. Et puis, le deuxième chose sur lequel je voudrais aussi insister, c'est sur le fait que, en l'absence de kinésithérapeute, on peut justement, comme tu le disais, avoir des recours inapproprié aux urgences ou peut-être des prescriptions vers des médicaments qui n'ont pas lieu d'être. Au pire, voire des recours à du charlatanisme.
Bien sûr.
D'accord ? Ou alors à des pratiques alternatives qui, eux, n'ont aucune donnée et n'ont pas la moindre donnée, en tout cas, d'utilité ou d'effet.
Rappelons que le kiné ou la kiné sont des professions de premier recours dans la prise en charge de la bronchiolite, hein.
Donc oui, ça, puisque ça veut dire quoi? La Haute Autorité de Santé le reconnaît et il dit il y a un intérêt à faire, à avoir sur le terrain des réseaux de professionnels qui prennent en charge ces bébés.
Et qui sont les kinés, entre autres.
Les premiers concernés, oui.
Alors, si vous voulez bien, on accueille Mariam qui est avec nous au 01 53 48 3000. Mariam, vous êtes maman de 4 enfants.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Beurre FM, Mariam. Vous voulez témoigner, combien de vos enfants ont été impactés par la bronchiolite?
Alors, deux des enfants.
D'accord, qui ont quel âge?
Il a 9 ans et un qui a 4 ans.
Quand ils ont été pris en charge, ils avaient quel âge?
Il y en a un, il avait 6 mois à l'époque.
Ouais. Ah oui.
Et il a eu besoin de beaucoup de kiné, respi à cause de bronchiolite. Et ça l'aidait énormément à respirer et à être mieux, moins encombré, quoi.
Voilà, donc on a quand même une action sur les symptômes. Bébé est mieux pour respirer, donc il est mieux pour s'alimenter. Il est plus confortable, voilà, aussi pour récupérer plus rapidement de sa maladie.
Oui, il fallait que ça soit régulier et tous les jours. Si on loupait une fois, c'était pas super pour lui, quoi. Et on voyait bien que si c'était régulier, c'était très efficace.
Et est-ce que vous, personnellement, ça vous a apporté quelque chose, le fait d'avoir été consulté à un masseur kinésithérapeute pour vos enfants au premier abord?
On était moins angoissés, on était plus accompagnés. Et on voyait notre enfant qui allait mieux. Quand on voit que notre enfant n'est pas bien et qu'il ne respire pas bien, on ne dort pas la nuit, on n'est pas bien. Alors que quand il mange mieux, qu'il respire mieux, on est mieux, nous aussi, en tant que parents.
Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que, avant même d'avoir vu le kiné, vous saviez comment il fallait faire? Quelqu'un vous avait appris comment faire pour moucher votre enfant?
Oui, on m'avait déjà montré, mais ce n'était pas aussi efficace que la kiné-respi.
D'accord. Et vous saviez le faire, vous, après, ou ça a toujours été quelque chose de difficile pour vous?
Non, ça a toujours été assez compliqué.
Qu'est-ce que vous trouvez difficile dans cet acte?
Eh ben, voir l'enfant qui a du mal à évacuer, donc il suffit qu'on ne fasse pas les choses correctement. Ça peut être dangereux, je trouve, pour l'enfant, que c'est quelqu'un de compétent qui le fait. Il y a une réactivité.
Est-ce que je peux revenir sur un point, madame? Parce que ce que vous dites, moi, m'interpelle, bien sûr, comme soignant, hein, et comme médecin prenant en charge des enfants. Vous dites, à juste titre, nous avons besoin, nous, en tant que parents, d'être accompagnés. Cette notion d'accompagnement, elle repose sur quoi? Parce que vous êtes inquiète pour votre enfant? Parce que vous souhaitez avoir...
On est inquiet, on ne sait pas... En tout cas, moi, c'était mon premier enfant, donc c'était assez... mon deuxième enfant qui avait une bronchiolite. Ma première, elle m'a jamais fait de bronchiolite. En tant que parent, on voit notre enfant mal respirer, alors que quand on est chez le kiné, elle nous rassure, elle nous explique que ça va passer, qu'il faut bien le dégager, qu'il faut bien l'évacuer. C'est quand même important pour un parent d'être accompagné.
Non, mais je pense que c'est au cœur même de la surveillance des nourrissons et c'est au cœur de la mission première qui est une mission de santé publique des professionnels de santé.
Toutes les interrogations qui sont normales et voilà, et c'est vrai que finalement quand on entend siffler et tout ça, c'est angoissant pour les parents.
Exactement.
Comment est-ce qu'il faut coucher bébé d'ailleurs en cas de bronchiolite? Est-ce qu'il y a une position particulière? Ah tiens, Mariam dit surélevé, ouais. Docteur Seban, Itissem.
Bon, et c'est vrai que historiquement, le fait de surélever un bébé permet d'avoir en tout cas ses voies aériennes dans une position, on va dire, anatomique parfaite pour améliorer, on va dire, la ventilation et la respiration. Mais bon, c'est un point sur lequel effectivement on est
ça discute,
ça se discute, et ce d'autant que c'est vrai que autant c'est peut-être plus facile à faire lorsqu'on a des bébés qui sont hospitalisés, qui requièrent effectivement d'être en position proclive, pour certains en tout cas, mais
en position,
oui, en position légèrement surélevée, pardonnez-moi.
Par contre, en
ville, c'est très très difficile à obtenir. Puis pourquoi? Parce que c'est difficile de surélever d'abord les matelas, et puis ensuite les bébés vont glisser, bien entendu, dans le lit. Donc je pense pas qu'il faut en faire une. Allez, un point, je dirais, pas majeur en tout cas dans la surveillance, mais ce qui compte en tout cas, et je l'ai répété, c'est regarder en fait comment bébé tolère sa maladie et surtout, voilà, se faire réévaluer sur le plan respiratoire, regarder comment il est capable de prendre ses biberons et regarder quelle est l'évolution aussi de la température pour ne pas passer à côté d'une surinfection.
Mariam, vous avez fait combien de séances ?
Franchement, je ne me souviens plus.
Mais qu'est-ce qui est indiqué, en fait, une TCM à peu près ?
À peu près, ça va durer à peu près 5 séances. C'est une histoire d'une semaine. Histoire, par exemple, du lundi au vendredi, on fait le travail, on fait le travail qu'il faut. Et puis, si on voit qu'effectivement, il y a un risque d'aggravation, on demande aux parents, justement, de voir auprès du réseau bronchiolite pendant le week-end. Et les 5 à 7 séances, et c'est l'histoire est réglée, en fait, avec une bonne surveillance, une bonne éducation des parents.
Je crois qu'il faut surtout aussi penser que, en fait, il n'y a pas un nombre requis de séances.
Oui,
c'est pas non plus une injonction à faire 3 ou 5 ou 7. En fait, l'idée
du
kiné comme du médecin, c'est de dire on va s'adapter à bébé. Et donc, vous avez des bébés qui sont plus sécrétaires que d'autres. Vous avez des bébés qui ont une toux moins efficace que d'autres. Pour certains, il faudra peut-être 2 ou 3 séances. Peut-être pour certains, il faudra 0 séance. Il faudra simplement de la surveillance. Et puis pour d'autres, il faudra peut-être 3, 4 séances.
Mais alors, quelle est l'indication justement de séance ?
L'indication de séance, c'est quand vraiment on va entendre le bébé qui siffle, qu'il a du mal à respirer, qui siffle, qu'il est gêné pour se nourrir. Et que les parents aussi n'arrivent pas d'eux-mêmes à faire le travail de drainage, de désencombrement du nez. Voilà. Donc d'un par rapport au nez et de deux par rapport au sifflement. On va ausculter, on va vérifier aussi au stéthoscope si on entend des murmures au niveau des bronchioles, etc. Et en fonction de ça, on décide ou non de faire le traitement par augmentation du flux expiratoire.
La question que vous avez posée, elle est vraiment au cœur de la problématique de la bronchiolite. Quels sont les enfants qu'il faut surveiller ? Quels sont les enfants qu'il faut désencombrer ? Quelles sont les indications de la kinésithérapie respiratoire ? Quelles sont les indications du kinésithérapeute pour la surveillance ? Et quelles sont l'indication de la kinésithérapie respiratoire pour ceux qu'il faudrait désencombrer ? Or, ça ne peut pas se prévoir à l'avance. Il y a effectivement des sous-populations, c'est-à-dire des bébés qui sont plus encombrés que d'autres, qu'il faudrait peut-être un peu mieux cibler, et c'est ça le travail des nouvelles recherches qui seront à mener en matière d'évaluation de la kinésithérapie respiratoire.
Mariam, merci pour votre témoignage ce matin.
Merci Mariam.
Voilà, j'ai des questions sur les bronchodilatateurs qu'on verra tout à l'heure. On parle de la bronchiolite ce matin jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Une mise au point interdisciplinaire ce matin, les recommandations, les dernières recommandations du mois de novembre dernier de la Haute Autorité de Santé concernant la bronchiolite et de la kinésithérapie de la bronchiolite justement respiratoire ont changé. Finalement, est-ce que les médias et est-ce que ces recommandations ont été mal retranscrites et mal comprises ? On en parle ce matin avec mes deux invités, donc Ibtissem Belmadani qui est masseur kinésithérapeute libéral et le docteur Sidney Seban qui est pédiatre. J'avais une question sur les bronchodilatateurs et un papa qui nous dit qu'il a peur d'en donner à sa fille parce qu'il a peur que ce soit dangereux. Docteur Seban.
Alors, sur la question des bronchodilatateurs, puisque là aussi, ça a été en tout cas un des points clés des nouvelles recommandations, il y a dans la littérature scientifique et dans les essais qui ont été conduits, beaucoup plus d'enfants qui n'ont pas bénéficié, on va dire, de l'efficacité des bronchodilatateurs dans la prise en charge, et je veux le répéter aussi devant ce micro, du premier épisode de bronchiolite, parce que les recommandations, elles ne s'attachent qu'au premier épisode, pas aux épisodes récurrents pour lesquels, effectivement, il faut aller voir dans d'autres recommandations s'il faut ou non faire de la kinésithérapie respiratoire et appliquer d'autres médications. Donc, pour les bronchodilatateurs, on revient justement sur le fait que pour qu'un bronchodilatateur soit efficace, encore faut-il qu'il y ait des bronchorécepteurs aux bronchodilatateurs. C'est-à-dire que les petites bronches de bébé soient équipées de fibres musculaires lisses, ce qui n'est pas le cas chez tous les nourrissons et chez tous les nourrissons en même temps. En gros, les fibres musculaires commencent à coloniser, en tout cas, les petites bronches que vers l'âge de 3, 4, 5, 6 mois. C'est pour ça que les bronchodilatateurs peuvent ne pas avoir d'efficacité avant cet âge, puisque s'il n'y a pas de fibres musculaires lisses, il ne peut pas y avoir de récepteurs en bronchodilatateurs, donc ça ne sert à rien d'en prendre. D'autre part, je voudrais aussi revenir sur cette notion d'efficacité. Un bronchodilatateur, ça va avoir un délai d'action très rapide, en général 2 à 3 minutes, si la bronche est rétrécie, comprimée, contractée. D'accord, mais si elle ne l'est pas, ça ne risque pas de faire quoi que ce soit. D'autre part, si jamais elle l'est et que votre bronchodilatateur arrive à dilater la bronche, il va la dilater pour une durée d'environ 2 heures à 3 heures. Donc l'effet ne sera que transitoire. Et c'est pour ça que même si on prend un bronchodilatateur et même s'il y a un spasme bronchique qui répond au bronchodilatateur, eh bien, il va falloir réitérer la prise du bronchodilatateur. Donc il n'y aura pas de réduction de la durée d'évolution de la maladie. Il n'y aura simplement qu'un effet sur le symptôme. Pour autant, votre papa qui témoignait a justement raison de s'interroger sur, pas simplement le bienfait, mais
la dangerosité.
Alors, il est recommandé en tout cas, en dessous de l'âge de 3 mois, de ne pas donner de bronchodilatateur. On a à peu près la certitude qu'il y a à cet âge-là. Pas de récepteur au bronchodilatateur.
Donc ça sert à rien.
Et donc là, clairement, on a un enfant qui n'est pas équipé, d'accord, pour avoir une réponse satisfaisante à ce type de médicament. Et là, ça peut être délétère.
Ibtissem.
Ce que je voudrais préciser aussi, c'est là se joue le rôle aussi du masseur kinésithérapeute pour éduquer les parents à bien utiliser le baby à l'heure, c'est-à-dire la chambre d'inhalation qu'on utilise quand on va utiliser ce type de traitement, que ce soit les bronchodilatateurs ou bien
les corticoïdes,
etc., en traitement de fond. Parce que la majorité du temps, quand on demande aux parents comment ils l'utilisent, etc., soit ils ne respectent pas le temps de pause chambre d'inhalation, parce qu'il faut bien attendre et bien positionner, bien bloquer les voies aériennes avec la chambre d'inhalation, mettre la pression au niveau du produit, le nombre de pressions qui est recommandé et prescrit par le médecin, et puis ensuite bien vérifier au niveau de la petite valve au niveau de la chambre que la valve monte et descend au moins une dizaine de fois tel que c'est demandé. Voilà, parce que sans quoi le traitement n'aura pas d'effet.
Les bronchodilatateurs ne sont pas indiqués dans tous les premiers épisodes de bronchiolite. Pour certains bébés, même si la Haute Autorité de Santé a bien fait de remarquer que les études montraient, en tout cas plus clairement, qu'il n'y avait pas un effet des bronchodilatateurs dans le premier épisode de bronchiolite. D'accord, je vous rappelle que dans les seconds, dans les troisièmes épisodes, il y a probablement là une indication à en donner, en tout cas chez les bébés qui ont peut-être aussi un prototype un peu particulier de réactivité bronchique, et ça c'est le travail aussi des médecins, conjointement avec celui des kinésithérapeutes, à avoir quels sont ceux qui répondent aux bronchodilatateurs et quels sont ceux qui nécessitent éventuellement, dans un deuxième, un troisième, un quatrième épisode, ceux qui nécessiteraient un traitement de fond avec d'autres médicaments. Mais c'est important de voir aussi que administrer un bronchodilatateur, ce n'est pas quelque chose qui est si évident que ça, et que bien là sûr. Aussi, et la maman le rappelait tout à l'heure, les parents ont besoin d'être accompagnés.
Et puis, il faut aussi préciser que ça permet de prévenir aussi les risques d'asthme du nourrisson, notamment par l'utilisation de ces traitements correctement.
Oui, quand on parle d'asthme du nourrisson, ce sont des bébés qui ont fait des épisodes itératifs de bronchiolite, entre guillemets, qui ne sont plus des
itératifs pour tout le monde.
À répétition. Plus de 3 épisodes. Ce sont des enfants, en fait, qui font des exacerbations d'asthme à l'occasion d'infections par des virus respiratoires. Voilà. C'est ça, en fait, le cœur du sujet. Et cela, en fait, il va falloir protéger, en tout cas, le développement de leur voie respiratoire au cours de la croissance, en leur donnant, effectivement, un anti-inflammatoire, un corticoïde inhalé, mais c'est une indication très particulière. Ça n'est pas une indication dans la bronchiolite, la première, mais ça peut être une indication dans les épisodes récurrents.
Alors, docteur Seban, Iptissem Belmandani, nous avons Stéphanie avec nous au téléphone. Elle est kinésithérapeute spécialisée en pédiatrie. Bonjour et bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous expliquer quel est l'intérêt et le rôle des kinésithérapeutes dans la prise en charge de la bronchiolite ?
Alors, ce qu'il va déjà falloir noter, c'est que la prise en charge des kinésithérapeutes en libéral et à l'hôpital est différente. Moi, j'ai travaillé à la fois à l'hôpital et en libéral.
En libéral, oui.
Donc, à l'hôpital, les enfants qu'on a sont beaucoup plus sévères. Et c'est vrai que les études qui ont été présentées, la plupart se font à l'hôpital. Alors qu'en libéral, on a des enfants qui sont moins sévères, mais on a besoin de les surveiller régulièrement. Donc, la kinésithérapie respiratoire en libéral, parce que c'est ça qui est un petit peu plus, entre guillemets, attaqué actuellement, elle a à la fois un rôle de surveillance des signes d'aggravation, donc qu'un enfant, il va être vu par le pédiatre un jour J, voilà, mais les jours suivants, il peut très bien se dégrader ou s'améliorer ou être stable. Donc nous, on va vraiment avoir un rôle de surveillance. Est-ce qu'il prend toujours bien ses biberons? Est-ce qu'il siffle plus ou moins? Est-ce que, voilà, comment évolue son état?
En fait, on fait une mise au point chaque jour avec le avec les parents.
Ouais. Et ça, c'est un quelque chose que nous, on peut faire, que ne peuvent pas faire les pédiatres ou les médecins traitants. On a vraiment cette vision au jour le jour d'un enfant qui s'aggrave ou pas, qu'on va pouvoir réorienter vers son médecin ou à l'hôpital. Et puis, on a aussi un rôle de formation sur le nettoyage du nez. On va rappeler aussi toutes les mesures d'hygiène à prendre, dans la chambre, par rapport à l'alimentation.
J'aimerais qu'on parle de l'air de la chambre, parce qu'on n'en a pas encore parlé de l'air de la chambre.
Alors, il est conseillé pour les enfants en général d'aérer la chambre au moins 10 minutes par jour, et que ça, c'est pour les recommandations contre la mort subite du nourrisson. On doit aussi avoir une chambre qui est entre 19 et 20 degrés.
En température. Mais qu'est-ce qui va irriter les bronches et les voies respiratoires du nourrisson?
L'humidité dans la pièce, une chambre qui est trop chauffée.
Le tabagisme passif.
Voilà. Parce que ça se présente aussi dans la pièce si le parent fume à la maison.
C'est-à-dire que si la personne ne fume pas dans la chambre du nourrisson, mais qu'il fume dans l'appartement ou ailleurs.
Oui, ça se transmet également dans la pièce où le bébé dort.
Il faut rappeler aux parents aussi que pour ceux qui fument, mais c'est pas parce qu'on va fumer.
Oui, sur les vêtements.
Non, c'est pas parce qu'on va fumer sur le balcon qu'on ne va pas, polluer l'air fait de bébé. Pourquoi? Parce que les bébés sont portés.
Ah oui.
Ils sont petits. D'accord? Donc, vous allez fumer sur votre balcon. Les produits de dégradation, en tout cas de combustion du tabac et du papier, eh ben, ils se déposent sur quoi? Sur vos vêtements et sur vos cheveux. Après, vous rentrez dans votre salon ou dans la chambre de bébé, vous portez votre bébé, eh ben, il va respirer ce qu'il y a sur vos vêtements et dans vos cheveux. Donc, ce n'est pas parce qu'on fume en dehors de l'espace où se trouve bébé qu'on ne va pas quand même irriter ses bronches.
Pensez à dire aux parents de changer de vêtements ou d'éviter de fumer
sur le balcon. Il y en a qui se reconnaîtront. Quels sont les nids à microbes auxquels on ne pense pas toujours?
Les doudous, les jouets, les tétines, les biberons,
aussi.
La literie, effectivement. Le linge qu'on peut transmettre, les couverts, par exemple, s'il y a un couvert utilisé par un des enfants qui est malade à la maison et qui est redonné sans forcément avoir été lavé, peut transmettre des microbes également.
Alors, bon, bien entendu, je pense que je comprends qu'on puisse donner, effectivement, et c'est licite, de dire que dans notre environnement, il y a des choses qui sont délétères, d'accord? Mais quelque part aussi, d'accord?
On en a besoin,
pourquoi? Parce que
ça booste.
Mais oui, enfin, c'est-à-dire que lorsqu'on est en contact avec des virus, d'accord? Alors après, c'est... À quel moment peut-on être en contact? Effectivement, être en contact trop tôt avec des infections virales ou des infections bactériennes, c'est pas génial. Mais pourtant, ça représente un moteur du développement du système immunitaire. Il faut que le système immunitaire, à quelque part, soit challengé pour qu'il puisse progresser. Et donc ça, c'est aussi, eh bien, le fait et l'objectif de la vaccination. Si on vous dit, voilà, on va vous vacciner contre des maladies dont on sait qu'elles sont graves... parce que bébé n'aura pas le temps de se protéger lui efficacement. D'accord, c'est un point fondamental aussi dans la protection et dans la prévention des maladies.
Alors Stéphanie, vous avez travaillé donc en libéral et à l'hôpital, mais finalement les bébés qui sont à l'hôpital, est-ce qu'ils ont besoin plus de kinésithérapie respiratoire que les autres ou pas?
En fait, ça dépend. À l'hôpital, on a des formes très différentes. Parce que la bronchiolite, c'est pas... Enfin, elle évolue en différentes phases. Mmh. On peut avoir des enfants qui sifflent beaucoup et on n'aura pas besoin de kiné respiratoire. Du moins, on n'aura pas besoin de désencombrement. Mmh. Alors qu'on va avoir des bébés aussi à l'hôpital qui peuvent être dans une deuxième phase très encombrée. Et là, ils auront besoin de kiné respiratoire. Après, à l'hôpital, on a rarement des bébés qui ont qu'une bronchiolite. Ils peuvent avoir ce qu'on appelle des comorbidités.
Oui, les facteurs.
Donc, des choses associées, une pathologie cardiaque, un reflux sans
handicap.
Donc, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est que l'ACS, elle nous explique pour la bronchiolite, moins d'un an et sans autres soucis.
En fait, c'est sur un type, une population type qui n'est pas révélatrice
De l'ensemble
de des nourrissons. Mmh.
Ce que tu es en train de nous dire.
La bronchiolite peut être révélatrice d'autres choses. Moi, j'ai travaillé aussi beaucoup en neuro. On s'est retrouvé avec des enfants qui avaient une infection respiratoire. Et puis finalement, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi c'est si grave? Et puis parfois, ils sont envoyés pour bronchiolite à l'hôpital ou en libéral. Mmh. Et c'est pas une bronchiolite. Et on va s'en rendre compte les jours suivants parce qu'il y a une fièvre importante, parce qu'il y a des signes qui collent pas. Moi, récemment, j'ai eu un petit qui est venu au cabinet pour bronchiolite et au bout de 3 jours, il n'avait pas les signes du bronchiolite.
On le renvoie.
Je l'ai renvoyé aux urgences pour suspicion de coqueluche et c'était une coqueluche.
Mmh.
Et ça, voilà, c'est le suivi au quotidien qui permet d'aider.
En tout cas, merci de votre retour d'expérience sur le terrain,
Stéphanie.
Pour terminer, docteur Seban, merci beaucoup, Stéphanie. Au revoir. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire pour terminer, docteur Seban?
Moi, je voulais justement, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Stéphanie à l'instant. Elle a dit 2 mots qui me paraissent très importants, c'est le mot « ça dépend ». Et ça dépend de quoi? Eh bien justement, la pratique médicale et la pratique kinésithérapique, celle des professionnels de santé, doit être une pratique qui individualise le soin. Mmh. Parce que, je dirais, faire des soins à des enfants...
C'est pas du prêt-à-porter.
Et qui travaillent communément autour de...
Nous ne sommes pas des officiers de santé qui appliquons bêtement, je dirais, une recommandation qui serait sortie par une quelconque autorité au-dessus de nous. Nous individualisons aussi nos pratiques en fonction des besoins de nos bébés. Donc, le côté « ça dépend », c'est très important à prendre en compte pour individualiser les soins. D'autant plus qu'elle fait référence, et notamment au travail des kinésithérapeutes et des médecins, sur le fait d'observer les bébés au décours de l'évolution de la maladie. Et donc ça, ce niveau d'observation, d'information, d'éducation, c'est bien docteur, ça vient bien du latin docere, qui veut dire éduquer. Donc c'est un point central de l'action des professionnels de santé. Et donc ouvrir aussi la boîte à neurones, partager les intelligences pour, en tout cas, dans l'intérêt du petit patient, je trouve que c'est, en tout cas, agir dans l'ADN de ce que nous avons, ce que nous portons, nous, en tant que professionnels.
Et écouter le besoin des parents.
Bien, j'aime beaucoup l'expression « la boîte à neurones ». En tout cas, vous nous l'avez beaucoup ouvert, en tout cas, beaucoup ouverte, cette boîte à neurones. Merci, Ibtissem Belmadani. Merci, docteur Seban. Pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent toujours aller lire. Si vous vous ennuyez, l'intégralité des recommandations de la Haute Autorité de Santé, donc on trouve partout sur Internet. Merci à tous les deux.
Merci.
Et très bonne journée sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.